Allez, on est toujours dans l'émission Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. Et puis, on reçoit ce soir Charles Soulier. Charles Soulier qui enseigne la sociologie à Paris 8 et qui vient ce soir nous parler de la réforme des universités. Mais peut-être qu'on peut commencer tout de suite par les conséquences de cette volonté de réforme des universités et sur ce qui se passe actuellement à Paris 8. Il y a un mouvement de grève qui a commencé. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qui est en grève? Qu'est-ce qui se passe?
Un mouvement de grève et avec blocage, en fait, et un blocage que je trouve assez intelligent, en fait, parce que c'est vrai que la question du blocage pose souvent problème. Et donc, bon, c'est intéressant de diffuser ce genre d'informations, c'est-à-dire la manière dont les étudiants bloqués, ils laissent rentrer les gens dans certains secteurs, dans une partie de l'université, ils ouvrent un ou deux amphithéâtres et ils permettent que, à la fois les étudiants, les personnels, les enseignants rentrent et puissent discuter, effectivement, parce que, bon, un blocage pur et simple, souvent, ça aboutit à vider l'université et donc aussi à vider l'initiative de son contenu, quoi, notamment, bon, parce que les échanges intellectuels, les discussions, c'est très important, hein, pour la formation de tout un chacun. Donc voilà, j'ai trouvé, je compare avec ce qui s'est passé au CPE, donc il n'est pas si loin que ça, hein, qui était peut-être un peu plus désordonné, un peu plus, comme ça, tripal, j'allais dire. Là, on sent que les étudiants ont pris de la bouteille, j'ai l'impression, et donc qu'il y a une accumulation qui s'opère, ce qui est toujours agréable, quoi.
Et concrètement, qui organise ça? Il y a des syndicats étudiants? Est-ce que c'est des formes plus type coordination? Qui est à la manœuvre dans ce type de...
Oh, ben c'est un collectif d'étudiants. Alors déjà, peut-être ce qu'il faudrait souligner, qui est un paradoxe quand même intéressant, c'est que... La LRU, dont on va parler plus après, donc en fait, est une réforme qui concerne d'abord et déjà les personnels au premier chef. Hein. Bon, on reviendra sur ce point plus tard. Et là, le mouvement de grève et de mobilisation contre cette loi vient des étudiants. Quoi. C'est quand même quelque chose à souligner. C'est une espèce de paradoxe quand même étonnant, étrange. Bien évidemment, les étudiants sont aussi concernés, mais... Peut-être pas de manière aussi nette, aussi directe que les personnels enseignants, les personnels IATOS, etc. Donc, effectivement, c'est un mouvement déjà étudiant qui rassemble des syndiqués, d'un peu tous les syndicats et de tous les partis, et aussi des non-syndiqués. Il y a ce qui me frappe beaucoup par rapport au CPE, c'est un certain souci du formalisme, par exemple, lors des assemblées générales, etc. Il y a... Même parfois, si vous voulez, ils veulent tellement bien faire que ça peut être anti-productif, quoi. Mais bon, moi, je trouve ça assez sympathique. Donc, vous voyez, le respect des tours de parole, le fait que la table qui est en bas dans l'amphithéâtre ne monopolise pas la parole, etc. Bon, voilà, il y a un souci démocratique que je trouve très sympathique. Hein, et bon.
Peut-être plus largement, je ne sais pas ce que vous avez comme information, on entend parler de Lille, de Rennes, de Poitiers, de multiples mobilisations. Est-ce qu'elles se font toutes qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de coordination? Il y a dialogue? C'est pour les mêmes raisons que ça se mobilise partout?
Ça, je ne sais pas vraiment, en fait. Moi, ce que j'observe à Paris 8, c'est que donc, c'est un mouvement déjà porté par les étudiants. Alors, il faut peut-être aussi décrire un peu mieux la situation politique, disons, de Paris 8, en fait, parce qu'il y a un contexte quand même. Hein. On le voit bien dans le cas de Nanterre, par exemple. Les Nanterrois ont quand même de sacrés problèmes parce qu'ils ont affaire à un président qui est manifestement très proche de l'UMP. Enfin, je crois qu'il va se présenter, il me semble, d'ailleurs, donc, aux élections. Alors, le cas de Paris 8 est singulier parce qu'on a sans doute un des présidents, sans doute, qui doit être le plus à gauche, il me semble, de la conférence des présidents d'université. Donc, c'est un tout jeune président. D'ailleurs, c'est le plus jeune président d'université de France. Il s'appelle Pascal Benzac. Et, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est venu après un autre président quand même très trouble et problématique, hein, Pierre Lunel, qui, semble-t-il... a commis, je ne sais pas comment nommer ce genre de choses, mais quelques malversations, semble-t-il, dans la gestion donc, de l'université.
On peut signaler que c'était le biographe de Bob Denard, par exemple.
Oui, absolument, oui, qui a fait aussi des ouvrages sur Sœur Teresa, etc. Enfin bon, c'était un curieux personnage, quand même, un juriste catholique. Il a consacré des ouvrages aussi à l'abbé Pierre, etc. Bon, voilà. Donc oui, donc au niveau politique, donc si vous voulez, en interne, la présidence et l'équipe qui est autour de lui, donc qui s'appelle notamment Paris 8 autrement, dont j'ai le plaisir de faire partie, autant dire les choses, hein, clairement, ont initié, si vous voulez, essayer de mettre un peu plus de transparence dans le fonctionnement ordinaire de l'université, et notamment ont pris position très nette au mois de juillet contre cette fameuse loi LRU. Hein, donc voilà. Donc c'est ce qui fait que le mouvement étudiant se développe quand même dans un contexte plutôt favorable. Quoi. Ils n'ont pas à se battre avec la direction, comme on dit aujourd'hui. Quoi.
Mais en même temps, la loi est passée et le président, normalement, est censé l'appliquer.
Oui, alors on retrouve toujours là, ce même paradoxe donc, des personnes qui sont aux commandes et des gestionnaires. Alors, sachant que Pascal Benzac aussi est un juriste aussi, alors bon, c'est habituellement en droit, si vous voulez, ce ne sont pas des gens qui sont très très à gauche. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est aussi très, donc voilà, comment dire, très attentif à la dimension juridique, très tatillon, pointilleux. Enfin, vous voyez, il y a un esprit juridique comme ça, vous savez, il. Et bon, il se trouve, nous et notre liste, placés dans cette contradiction, c'est-à-dire qu'il y a eu, le CA, les différents conseils ont rejeté à une majorité écrasante cette fameuse loi, mais se retrouvant dans des positions de gestion, ils sont bien obligés d'appliquer le moins mal possible, alors toute la nuance, tout le jeu est là, cette loi. Et là, chose inespérée, un mouvement social arrive et peut-être nous ouvre une fenêtre, des portes. On verra.
Oui, parce qu'on peut dire, en fait, dans les autres facs où le président, là, pour le coup, est plutôt favorable à la loi, ce qui est pratiquement le cas de toutes les universités, la situation est évidemment nettement moins évidente pour les étudiants, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs présidents qui ont fait appel aux forces de l'ordre pour déloger les manifestants. On le sait pour Nanterre, Rennes, Marseille. Puis d'autres facs sont fermées par le président, comme à Paris 1. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour organiser les réunions dont tu parlais. Quoi. Évidemment, là, les AG, ça se passe dehors, quoi. Et s'il y en a. Quoi.
Alors, tout ça, toutes ces AG, tous ces mouvements se font contre la LRU, la nouvelle loi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi et, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui menace l'université ?
Alors, le contenu de cette loi, déjà, bon, j'ai amené ici le texte de loi que j'ai relu avant de venir, donc, et ça vous a fait beaucoup sourire, mais bon, c'est quand même important. Bah, disons que cette loi, c'est déjà une réforme de ce qu'on appelle la gouvernance, vous savez, le mot, comment dire, un peu chic, là, des universités, quoi. Voilà, donc on réforme le gouvernement des universités, et... si vous voulez, globalement, sa philosophie, c'est de donner beaucoup plus de pouvoir donc au président, c'est-à-dire d'installer des régimes présidentiels forts, à l'image de ce qui se passe dans les entreprises, en fait, au sein des universités. Si vous voulez, dans le monde académique, l'université, il y a quand même une tradition de gouvernement collégial, hein, avec, bien évidemment, toutes les limites que cela peut avoir. Il y a quand même une tradition aussi de discussion longue, souvent, on a souvent des CA, des CS, des conseils d'administration qui peuvent durer des heures et des heures, etc. etc. Et donc là, avec cette nouvelle loi, l'objectif manifestement est d'aligner les procédures de gestion, de gouvernance interne sur un modèle, si vous voulez, qu'on estime plus performant, plus efficace en fait, qui est donc celui des entreprises. D'ailleurs, Paris 8, j'ai appris récemment, se faisait critiquer par le ministère parce que justement les CA étaient trop longs, quoi, parce que les gens prenaient trop de temps pour discuter en fait, quoi. Parce qu'effectivement, il y a des choses à discuter. Et là, bon, ça peut être quelque chose qui pose des problèmes. Donc déjà, c'est une réforme très importante donc, relative au gouvernement des universités et qui crée donc, si vous voulez, des espèces de super-présidents qui vont pouvoir enfin avoir la main sur leur personnel, puisque ça, c'est une revendication quand même très ancienne. Alors, peut-être que c'est important de souligner que cette réforme, en fait, est une co-construction, en fait, de la majorité actuellement au pouvoir, enfin de l'UMP, et des présidents d'université réunis donc dans la CPU. C'est une réforme qui a été réclamée à corps et à cri par les présidents d'université eux-mêmes. Alors c'est important de souligner ça parce que ça veut dire que cette réforme vient aussi de l'intérieur de l'université. C'est pas simplement le vilain Sarkozy qui veut, etc., voilà, opprimer les gentils universitaires de gauche et bien-pensants, mais de l'intérieur même de l'univers académique, voilà, la fraction, disons, la plus gestionnaire, la plus en prise, avec la gestion quotidienne aussi des universités, voilà, a réclamé d'avoir plus de pouvoir, en fait, sur leurs semblables, sur leurs collègues, quoi. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, de penser à cette... Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que la CPU, d'ailleurs, aujourd'hui, donc, voilà... dans ses prises de position publiques, voilà, se déclare fermement opposé au mouvement étudiant actuellement.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quelle était la situation qui préexistait par rapport au personnel ? C'est-à-dire que c'est les... on parle de quoi ? Quel pouvoir acquièrent les présidents avec cette réforme ?
Alors, concernant les pouvoirs que le président va enfin obtenir sur leur personnel, donc comme ils aiment à dire, en fait... Déjà, ils vont avoir un pouvoir beaucoup plus important concernant le recrutement des personnels, en fait. Alors là, ça devient un petit peu technique. Alors je m'excuse de rentrer dans la cuisine, mais il faut savoir donc à l'université, en fait, on est recruté via un système qui s'appelle aujourd'hui des commissions, en fait, des commissions dites de spécialistes, en fait. Et donc, premier changement donc qui va se produire, ces commissions spécialistes qui sont l'émanation en fait des disciplines, des enseignants membres de chaque discipline dans les universités en fait vont disparaître et vont être remplacés par des comités de sélection en fait choisis par le président lui-même. Voyez, c'est-à-dire que voilà, les présidents vont avoir un pouvoir beaucoup plus important concernant le recrutement, en fait, finalement, de leurs chers collègues, quoi. Alors, non seulement, si vous voulez, ils vont avoir un pouvoir beaucoup plus important sur le recrutement des enseignants-chercheurs, mais aussi sur leur devenir professionnel et académique. Parce que, par exemple, cette loi prévoit le président... puisse, comment dire, distribuer des primes, en fait, à ces, voyez. Donc il y a beaucoup de, si vous voulez, des techniques qui nous viennent du secteur privé, en fait, qui, en fait, se retrouvent maintenant, donc, dans le monde académique. De même, il est prévu des dispositifs d'intéressement, en fait, voyez, ce qui heurte aussi, si vous voulez, les traditions du service public, voilà. Donc autant de dispositifs, si vous voulez, qui servent en quelque sorte, enfin qui dans la visée évidente en fait, et que la direction, la présidence puisse mieux contrôler son personnel. Alors ici, je parle beaucoup des enseignants, mais on peut dire la même chose aussi pour les personnels techniques, administratifs, les IATOS, etc.
Parce que les enseignants aujourd'hui à l'université, comme vous, sont des fonctionnaires. Est-ce que dans ce nouveau système, les enseignants resteraient des fonctionnaires ? Est-ce qu'on signerait un CDI ou un contrat à l'essai ? Enfin, y a quelque chose qui est modifié là-dessus ?
Alors, oui. Alors, une des choses qui est déjà, si vous voulez, précisée enfin, dans les textes, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle réforme, c'est maintenant le conseil d'administration qui décidera... des activités des enseignants-chercheurs. Parce que, alors, il y a une question clé qui se joue derrière. C'est celle, si vous voulez, de la répartition des activités des enseignants-chercheurs entre recherche, enseignement et administration. À l'intérieur donc, du projet de loi, donc, il est spécifié que... donc ça, c'est le futur conseil d'administration qui décidera, en fait, pour chaque enseignant, finalement, du type de mission qu'il devra accomplir, en fait. C'est quelque chose... alors que ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, de ce point de vue-là, je crois pour mieux comprendre cette réforme, il faut peut-être la placer dans la série des réformes, enfin, dans les réformes qui la précèdent et celles qui devraient lui succéder. C'est-à-dire que à terme, concernant les enseignants-chercheurs, la réforme qu'on vit aujourd'hui, je pense, est le prélude à une réforme du statut, en fait, des enseignants-chercheurs. En effet, Bernard Belloc, en fait, qui est... l'actuel conseiller, en fait, pour Nicolas Sarkozy aux affaires universitaires, a rédigé un rapport, en fait, il y a quelques années de cela, donc un rapport Belloc, et qui, justement, proposait notamment de dissocier donc, les activités d'enseignement et de recherche en créant, par exemple, un corps d'enseignants purs. Hein. C'est-à-dire d'enseignants qui feraient deux fois plus d'enseignements que les autres. Ce qui est absolument avantageux, bien évidemment, d'un point de vue strictement gestionnaire, puisque vous payez le même prix une personne qui fait deux fois plus d'enseignement, mais qui, à ce moment-là, ne fait plus du tout de recherche, parce que, bien évidemment, si vous écrasez les enseignants sous chercheurs sous les activités d'enseignement, les activités de recherche diminuent d'autant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît très important, parce que effectivement la particularité, si vous voulez, des enseignants-chercheurs, c'est qu'ils sont enseignants et chercheurs. Et la particularité de l'enseignement universitaire, c'est qu'il soit fait par des enseignants qui soient aussi des chercheurs. Hein. Et donc là, il y a quelque chose de très important qui se joue, en fait, hein, à terme. Hein, parce qu'il me semble bien que pour qu'un enseignement puisse être qualifié d'universitaire, il faut qu'il soit délivré par des chercheurs. Et donc on observe un processus comme ça, si vous voulez, d'approfondissement d'une division du travail, d'une différenciation des tâches, en fait, de ces fameux enseignants-chercheurs. Hein. Et donc un éclatement, je pense, à terme de leur statut, hein, si on n'y prend pas garde. Hein. Et ça, je pense que c'est un enjeu très, très important. Moi, personnellement, j'aime mon métier parce que, justement, il me permet de combiner, si vous voulez, ces deux dimensions. Quoi. Et j'ai bien peur qu'à la fois ces deux dimensions ne soient plus articulées à l'avenir. Et que aussi, si vous voulez, on m'impose de l'extérieur de faire tel ou tel type d'activité. Alors qu'aujourd'hui, on jouit pourtant d'une très grande autonomie. Hein,
c'est... Parce qu'aussi l'enjeu pour les étudiants, évidemment, c'est de... S'ils sont confrontés à des enseignants qui ne font que de l'enseignement, ça va devenir un enseignement purement théorique.
Alors oui, il faudrait aussi réinsérer, si vous voulez, cette réforme dans le mouvement de différenciation des établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que, effectivement, et notamment avec le LMD, donc la réforme qui a précédé des universités, on observe...
LMD, c'est licence
master. Oui, excusez-moi, je
licence
parle...
Licence master, doctorat,
oui, c'est ça.
Qui est, grosso modo, il reste trois diplômes.
Oui, c'est ça.
Un diplôme au bout de la troisième année qui est la licence, le master qui est un bac plus 5, c'est et ça. Le doctorat qui correspond à la thèse actuelle. Donc ça fait disparaître, grosso modo, la maîtrise et le bac plus 2.
Le DUG, l'ancien DUG, absolument. Oui, c'est ça, le LMD. Oui, je vous disais donc... Ce qu'on observe donc avec notamment la mise en place du LMD, c'est que c'est un phénomène de dualisation et différenciation croissante des universités. C'est-à-dire qu'à terme, le risque est grand, si vous voulez, que non seulement le statut d'enseignant-chercheur éclate et que nous ne soyons plus tous enseignants et chercheurs, mais aussi que les universités elles-mêmes se différencient entre, si vous voulez, des collèges de premier cycle qui seraient connectés sur des bassins d'emploi spécifiques et donc accueilleraient les étudiants jusqu'au niveau de la licence, et des établissements plus sélects, plus excellents, si vous voulez, qui monopoliseraient en fait la dimension de recherche. Quoi, hein. Alors tout ça, c'est la thématique des pôles d'excellence, la recherche, d'une meilleure place dans ce fameux palmarès de Shanghai. Vous savez, c'est ce palmarès qui classe les universités mondiales en fonction de leur taux de prix Nobel, etc., etc. Donc c'est aussi ce genre d'idées, bien évidemment, que nos gouvernants ont en tête. Quoi. Ils veulent dégager des facultés d'excellence. Quoi, hein. Et donc il faut différencier les établissements. Hein.
Oui, justement, pour les questions internationales, pour les retraites, pour un certain nombre de réformes, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Europe. Est-ce qu'il y a une directive européenne qui tend à mettre en place ce genre de réforme ? Est-ce que cette idée de différenciation s'applique déjà ou existe déjà dans d'autres pays ?
En fait, non. L'enseignement supérieur ne ressort pas en fait, des compétences hein, de l'Union européenne, en fait, non. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle le processus de Bologne, hein, c'est-à-dire les différents ministres de l'enseignement supérieur des différents pays européens qui ont décidé d'harmoniser en fait leur système d'enseignement supérieur. Donc c'est ce qui a donné déjà cette fameuse réforme dite du LMD en fait. Hein. Donc non, ça ne ressort pas de la compétence de l'Europe, mais déjà des compétences nationales. D'ailleurs, ça veut dire aussi concrètement qu'on a une marge de manœuvre aussi. Hein, donc on n'est pas obligé de s'aligner, si vous voulez, sur un modèle européen unique. Hein.
D'accord.
El ejército del Ebro, una noche río paso, ay carnera, ay carnera, una noche río paso, ay carnera.
invasoras, y las tropas invasoras. Buena París Salesio, ay Carmela, ay Carmela. Buena París Salesio, ay Carmela, ay Carmela. Furor de los traidores, furor de los traidores. Pueden bombas, pero nada pueden bombas. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, con ataques muy rabiosos. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela. Pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. 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 El ejército del Ebro, pam pam.
Voilà, ça c'est les motivés, vous mettez ça sur un camion, dans une manif, ça met une ambiance du tonnerre. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front, et on reçoit donc ce soir Charles Soulier pour nous parler de la LRU et plus largement de la réforme des universités. Faut juste peut-être dire deux mots sur Paris 8, l'université Paris 8 qui se trouve à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui est une très grosse université, plus de 30 000 étudiants. Enfin, au chiffre où j'en étais resté, moi, il y avait plus de 30 000 étudiants.
C'est plutôt 24 000, 25 000.
D'accord. J'étais sûr. Donc, et puis, qui est aussi une université qui accueille bon nombre d'étudiants issus des classes populaires. Enfin, on n'est pas à Dauphine, on n'est pas à la Sorbonne. Et puis, c'est aussi une université qui a une histoire un petit peu particulière dans son enseignement, son département. Son légendaire département de philosophie avec Deleuze, Foucault. Mais oui, parce que ça a été aussi un lieu d'expérimentation en termes de pédagogie universitaire, de choses comme ça. Donc c'est une université qui peut-être plus que les universités bourgeoises, entre guillemets, a beaucoup à perdre dans une réforme telle que vous avez commencé à nous la présenter. Parce qu'à Dauphine, par exemple, ils ne sont pas contre cette réforme. D'ailleurs, ils l'ont déjà appliquée avant les autres, quasiment, puisqu'ils ont un statut particulier.
Oui, absolument. Oui. Alors ça, c'est très important, ce dont vous venez de parler. C'est qu'effectivement, étant situé dans le 93, on a beaucoup d'enfants, enfin, comme les appelle Stéphane Beau, de la démocratisation scolaire. En fait. C'est-à-dire qu'ici, de la politique des 80% d'une classe d'âge au bac. On a aussi beaucoup d'étudiants étrangers, en fait. C'est l'université française qui compte le taux d'étudiants étrangers le plus élevé de France, hein, à peu près 30%. Et aussi, on a cette histoire glorieuse dont vous avez parlé avant, donc, hein, puisque université...
Encore, je n'ai pas parlé du département de sociologie.
Mais ça va venir, je vais le faire moi-même. Donc oui, puisqu'effectivement, Paris 8 a été créé suite aux événements de 68, comme d'ailleurs Paris-Dauphine, au demeurant. Hein, c'est un centre expérimental, donc, initialement. Donc. Et c'est vrai que, si vous voulez, ce processus de différenciation et surtout de... Et de hiérarchisation des établissements que la loi, en fait, LRU, c'est-à-dire sur l'autonomie des établissements, va être favorisée par cette loi, en fait. Hein. De fait, si vous voulez, l'idée de sortir du cadre national des diplômes, d'un cadre fixé par l'État, est congruente de cette loi. Il faut que dégager, si vous voulez, des établissements d'excellence susceptible donc de rivaliser dans le dérisoire palmarès de Shanghai, en fait. Hein. Et quant aux autres, eh bien, ma foi, ils assureront, si vous voulez, une mission de service public avec des moyens minimums, quoi. Et si vous voulez, on voit bien que socialement, effectivement, ça recoupe des clivages de classe tout à fait évidents, quoi. Hein. C'est-à-dire entre les petites universités de banlieue ou alors de province qui seront fortement connectées au bassin d'emploi, Et donc, on invitera à ce moment-là les universitaires à s'intéresser de plus près à ce fameux bassin d'emploi et à fabriquer, par exemple, des diplômes professionnels pour insérer ces étudiants qui ont besoin d'un emploi, bien évidemment, et des établissements plus chics au recrutement scolaire et social plus sélectif qui pourront continuer à délivrer, si vous voulez, des formations plus généralistes et plus orientées vers la recherche. Vous voyez, c'est ça qui se joue aussi en filigrane derrière cette réforme. Alors oui, vous disiez aussi différence Paris 8 Dauphine. Alors c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement les universités Paris Centre ou les grosses universités peut-être peuvent voir d'un meilleur œil cette loi LRU puisqu'elle va leur permettre, si vous voulez, développer leur potentiel pour employer un vocabulaire managérial. Mais on voit aussi, quand on regarde comment les universités réagissent, que selon les facultés, si vous voulez, les réactions ne sont pas les mêmes, enfin, selon les disciplines. Hein. Si vous voulez, les facs d'économie-gestion sont quand même globalement acquises à ce type de réforme, hein, de manière assez claire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui bouge ? C'est pas l'économie-gestion, c'est pas tellement le droit, quoique il y aurait des choses à dire sur le droit, c'est pas la médecine. Mais effectivement,
pharmacie non plus, je suis sûr, il bouge pas.
Voilà, oui, que c'est voilà. Et donc, on voit bien aussi, si vous voulez, que ça enfin, je dis ça, c'est pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, quand je disais que cette réforme vient aussi de l'intérieur des présidents d'université. Elle vient aussi de l'intérieur au sens de certaines disciplines, si vous voulez, sont beaucoup plus acquises, si vous voulez, à des réformes d'inspiration libérale. Hein, ça, c'est de manière très, très... C'est évident. Hein, parce que, par exemple, elles sont plus proches du secteur privé par leurs débouchés, alors que d'autres seront plus proches du secteur public, etc. Vous voyez, donc, il y a des, comme ça, des clivages aussi sociaux hein, qui sont, comment dire, connectés avec tout ça, quoi. Hein.
C'est vrai aussi pour les sciences dures, ça
Alors, oui, il faut aussi... Alors, il me semble... Alors, ça fait un peu technique, je m'excuse d'être un peu lourdin comme ça, voilà. Mais c'est vrai que toutes ces évolutions, je crois que si on veut les comprendre... Parce que, si vous voulez, moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est quand même l'atonie des collègues par rapport à cette réforme. Elle va quand même diminuer considérablement notre autonomie. Si vous voulez, on n'est pas payé très cher, pour dire les choses de manière un peu brute, mais on a quand même une chance incroyable, c'est d'être très, très autonome dans notre enseignement et notre recherche. Voilà. Hein, comparé aux collègues américains, anglais, allemands, voilà. On ne revient pas très cher. D'accord. Mais il y a quand même un avantage donc, formidable dans ce métier qui est quand même cette autonomie, cette liberté qui me paraît être bon, le bien le plus précieux. Voilà. Et là, je suis quand même étonné de voir que les collègues ne sont pas plus sensibles, si vous voulez, aux effets potentiellement liberticides en matière, si vous voulez, au niveau de la pensée, de la production théorique, de l'imagination théorique, de tout ce que vous voulez, de cette loi, quoi. Parce que introduire des systèmes de primes, d'intéressement, instaurer un système présidentiel fort, etc., etc., tout ça, si vous voulez, je ne crois pas que ça soit extrêmement bon pour la productivité scientifique globale de nos universités, quoi. C'est bon. Et de ce point de vue-là, bon, je ne saurais trop remercier, et sans démagogie, les étudiants d'avoir, ouvert le bal, quoi, et de nous avoir permis de poser la question de ce que doivent être les missions de l'université aujourd'hui. Est-ce que c'est de professionnaliser à toute force les étudiants, ou est-ce que c'est encore un espace de transmission et de création du savoir, hein ? Ce sont des questions fondamentales qu'on a tendance à oublier, mais voilà, et j'espère et je crois que le mouvement en ce moment nous permet de les poser. Hein, et ça, c'est heureux, enfin, de pouvoir poser les vraies questions.
Et justement, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, cette espèce d'atonie des enseignants ? Parce que bon, il y a quand même des organisations syndicales qui réagissent. C'est parce que tu penses qu'ils sont tellement déjà pris par de nombreuses charges, qui ne voient pas d'autre manière de résoudre les problèmes auxquels ils sont déjà confrontés ou...
Alors, je souhaiterais ne pas être trop méchant avec mes collègues et d'être,
Je vais peut-être alors terminer ma question juste. Alors, oui. Je pensais aussi, il y a une difficulté, c'est qu'il n'y a pas tellement d'alternatives politiques sur les universités. C'est-à-dire, on a vu quand même... Ségolène Royal développait un discours sur l'autonomie, plutôt. On ne peut pas dire qu'il y ait un discours alternatif du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, bon nombre de présidents d'université sont membres du Parti Socialiste. Donc, ce n'est pas tout à fait évident. L'extrême-gauche n'a pas forcément développé un discours sur les universités. Ce n'est pas forcément ça qu'elle travaille. Donc, du coup, est-ce que ça ne participe pas aussi un petit peu d'absence de réaction, quoi ?
Oui, alors moi je crois qu'il y a vraiment beaucoup de raisons qui expliquent, il me semble, cette atonie des camarades, enfin des collègues universitaires. Alors déjà, bon, il y a la faiblesse des syndicats quand même, parce que bon, le SNESUP, bon voilà, il y a très peu de, il y a très peu d'adhérents. Enfin, je connais pas les taux, les chiffres, mais bon, voilà, je pense que c'est très très faible. Donc à la fois, il y a un tissu syndical qui est quand même très, très fragile. Alors ça s'explique aussi, si vous voulez, par le métier aussi d'enseignant-chercheur, en fait. Hein. C'est-à-dire beaucoup de collègues, si vous voulez, vivent ce métier un peu comme une profession libérale, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire, je fais mes cours, je fais ma recherche, mais je me désintéresse, si vous voulez, du collectif, des tâches collectives, etc. Donc là, il y a... Vous voyez, c'est un peu l'envers de cette liberté hein, que je décrivais précédemment, de cette autonomie hein, qui me semble très, très importante et pour laquelle bon, j'ai envie de me battre, effectivement, hein, avec les étudiants. Mais d'un autre côté, si vous voulez, il y a l'autre aspect qui est ce relatif désintérêt d'une bonne part des collègues, si vous voulez, pour les dimensions collectives, pour la prise en charge du collectif que représente l'université. Quoi, hein. Alors, ça, c'est des raisons... structurel. Il y en a d'autres aussi qui sont, si vous voulez, ça me paraît quelque chose de très important qui est rarement dit, c'est les transformations aussi morphologiques de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur, par exemple, c'est beaucoup, entre guillemets, professionnalisé. Hein, c'est-à-dire à travers la multiplication de ce qu'on appelait les DESS, les masters professionnels, etc. Et donc, à contrario, tout ce qui est recherche a quand même passablement reculé à l'université. Alors, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent, mais par exemple, quand on étudie, la distribution du type de diplômes délivrés, hein, on observe que finalement, les universités délivrent de moins en moins de doctorats. Relativement, je veux dire, hein, mais de plus en plus, par exemple, de diplômes professionnels, licences professionnelles, masters professionnels, etc. Alors ça, si vous voulez, c'est une modification structurelle qui est importante parce qu'elle a habitué les agents hein, qui se sont fait les vecteurs de cette professionnalisation aussi, les a accoutumés, les a acclimatés aussi à un discours, on peut dire, d'inspiration sans doute plus entrepreneuriale, en fait. Hein. Donc là, c'est quelque chose d'important. De même, alors, un autre facteur macro, il me semble important, c'est l'évolution du rapport de force entre disciplines. Alors, parce que, par exemple, les deux disciplines qui ont explosé à l'université ces 20 dernières années, c'est quoi ? C'est la gestion, hein, qui a été créée en 68-69, paradoxe amusant. Et qui d'ailleurs, c'est absolument étonnant le cas de la discipline de gestion, parce que, ces disciplines donc créées dans les années 68-69, bientôt les enseignants en gestion vont être plus nombreux que les économistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en effectif, quoi. C'est ce que ça veut dire. Hein, non seulement, si vous voulez, il y a cette dimension-là, donc, je disais la gestion et l'informatique, hein, l'autre discipline qui a explosé. Alors, ça se comprend bien. Hein, voilà, les deux disciplines reines de l'université aujourd'hui, enfin, qui ont connu l'expansion la plus formidable, c'est ça. Et ce qui a décliné, ce sont les disciplines traditionnelles, canoniques. Vous voyez, les humanités, les disciplines en sciences aussi, c'est pareil. Vous voyez, la physique théorique, par exemple, etc. Et ça, si vous voulez, c'est important parce que ça a contribué à modifier, si vous voulez, la vision que les académiques ont de leur métier, de l'université, de leur mission. Hein. C'est un espèce de facteur macro, hein. Qui me paraît jouer un rôle capital. D'ailleurs, quand on examine la provenance disciplinaire des présidents d'université, on voit que ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui à venir des disciplines de gestion, d'informatique, de sciences appliquées. Et on comprend qu'ils se fassent le vecteur ensuite, bien évidemment, d'une autre vision de l'université que celle que je défends personnellement. Hein, c'est bon.
Alors, la semaine dernière, à cette antenne, on recevait Alain Trautmann, qui était pendant un temps le principal animateur de Sauvons la Recherche. Et si, justement, d'après ce que vous dites, si on élargit la focale, quand lui nous raconte le sort qui est réservé à la recherche de son côté, du côté du CNRS, quand vous nous décrivez le sort qui est réservé à la recherche au sein de l'université, si on connecte les deux, ça donne un tableau assez terrible de l'avenir de toute forme de recherche qui ne soit pas directement applicable.
Oui, bah tout à fait. Mais je crois qu'on vit des tendances, comment dire, si vous voulez, c'est des évolutions structurelles de fond. Hein. Alors non seulement, alors du côté des sciences, ça se complique parce que en plus ils ont des problèmes d'effectifs étudiants. En fait, vous savez, il y a une chute des effectifs en fait dans les disciplines scientifiques qui est relativement universelle. Enfin, qu'on retrouve en Europe, qu'on retrouve dans d'autres pays. Mais oui, ce sont des, si vous voulez, la part de la science, de la recherche diminue structurellement et la part qui se développe, ce sont plutôt les recherches de type appliqué, rentable, etc., etc. Et voilà, c'est une évolution contre laquelle il est difficile de lutter.
Les petits gens se cassent les reins pour gagner 3 cacahuètes. Galère pour remplir la marmite avec leurs miettes. Contre la mitraille, flip pour l'avenir de la marmaille. Sky les miches et ça échauffe en rêvant de maille. Mec, c'est la zerbe et tout le monde s'en bat les steaks. Chacun sa petite popote, si j'ai tort, tu m'arrêtes, ça me fout la gerbe. Alors je te donne ma solution. C'est tout un système qui mérite un coup de peupon. Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, et yo, dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches. Nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires.
Faut y aller,
à Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un doua qui voit sa terre trembler sous un faux barrage, et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allahu Akbar, faut sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre, ou mourir de faim au Bangladesh, être profidèle dans les Caraïbes, enfin des rues de Bagdad ou de Marrakech.
Salazar, Thomas Sankara au Burkina Faso, vivre les révolutions de Simon Bolivar, caché au fin fond des montagnes tchétchènes, pendant que la corne de l'Afrique flambe, étudiant sur la place Tiananmen, étudiant chilien en ce maudit jour de septembre, avec Massoud à Kaboul, face aux soviétiques et puis aux talibans, ouvrier coréen en grève à Séoul, défendre les droits de la femme à Téhéran, passer ma vie dans les apartheids de Cisjordanie ou de Johannesburg, peut-être Trima, Fibe Belwed et Amani et dans ses faubourgs.
Il faut y aller, il faut y aller, faut y aller.
Oui, on se retrouve avec Charles Soulier dans Les Oreilles Loin du Front, toujours pour parler de la réforme des universités. Alors Charles, tu avais participé avec un collectif, un livre qui s'intitulait Universitas Calamitatum, le livre noir des réformes universitaires. Donc avec Valérie Pécresse, tu partageais au moins le fait de considérer qu'il y avait un problème à l'université, que tout n'allait pas de soi, mais manifestement c'est sur les réponses à apporter que ça coince un petit peu. Alors peut-être tu pourrais nous donner peut-être quelques pistes sur lesquelles vous réfléchissez dans ces mouvements. Et je sais qu'à Paris 8, vous avez réalisé des états généraux bien avant la réforme déjà, pour essayer d'imaginer d'autres formes possibles d'organisation du système universitaire. Est-ce que tu pourrais...
Oui, alors en lien avec, si vous voulez, c'est l'arrivée de cette nouvelle équipe. Excusez-moi, j'ai l'impression que je fais de la pub pour une équipe présidentielle, ce qui est une position un peu bizarre. Mais effectivement, bon, moi, je suis solidaire hein, de cette équipe. Donc en lien avec l'arrivée de cette équipe, qui faisait suite à la gestion calamiteuse du président précédent. Donc il y a une volonté, si vous voulez, que l'université se ressaisisse en quelque sorte des questions qui la concernent. Donc on a lancé, alors avec des collègues, donc on a lancé une initiative donc des états généraux de l'université. Et donc on a essayé de réfléchir sur le fonctionnement déjà en fait de notre université, parce que il s'agit pas simplement de défendre le statu quo, parce que bon, c'est les réflexions ce qui nous est souvent renvoyé dans les gencives. En fait, vous êtes simplement pour le statut, avant c'était mieux, etc., etc. Donc oui, dans le cas de ces états généraux, on a essayé de prendre un peu de champ, un peu de distance. Et déjà, en commençant par étudier, de manière avec les moyens que nous offre la science sociale, la sociologie, en mobilisant aussi les étudiants, par exemple, dans le cadre en sociologie, vous voyez, dans le cadre de cours de méthodologie, par exemple, on leur a fait faire des enquêtes et tout. On a essayé de faire une espèce de radiographie, donc, du fonctionnement de cette université. Et aussi, alors, on a lancé une initiative aussi, alors que ce serait pas mal que ça soit lancé aussi ailleurs. Bon, peut-être le contexte ne s'y prête pas aujourd'hui, mais par exemple, une initiative qui m'a paru très intéressante, c'est celle des cahiers de doléances, en fait. Oui, on avait le modèle... on a demandé, en fait, aux étudiants d'écrire leurs doléances, en fait, sur le fonctionnement de leur université. Alors, ça a été assez douloureux pour nous, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, sont remontées des choses que, en tant qu'enseignant ou personnel administratif, nous n'avions peut-être pas forcément envie de voir et qui renvoyaient à des dysfonctionnements patents, si vous voulez, de cette institution dont nous avons quand même la charge, en fait. Hein. Et ça, bon, ça a été instructif et aussi douloureux, parce que, bien évidemment, quand on se lance dans ce genre d'opération, on soulève des lièvres, si vous voulez... pour lesquels, si vous voulez, on n'a pas nécessairement des réponses immédiates. Mais en tout cas...
Un exemple ou deux ?
Comment ?
Un exemple ou deux de lièvres ?
Déjà, bon, il y a la question de la misère matérielle, en fait. Alors, c'est une chose... Bon, on aurait dû en parler dès le début, en fait. Mais c'est vrai que les universités françaises sont des universités de pauvres, pour les pauvres, on a envie de dire, enfin, comparé aux universités européennes. Hein. D'ailleurs, ça choque souvent les collègues étrangers quand ils viennent en France, qui disent, mais franchement, vous vivez quasiment dans des taudis. Vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de place, c'est pas beau, il n'y a pas de personnel. Bon, c'est un enseignement très cheap, c'est vrai, pour le coup, très économique. Hein. Bon. Donc oui, il y a le côté déjà les conditions matérielles misérables, mais aussi celles qui leur sont... Moi, je pense que c'est vrai que la question des toilettes, alors on dirait, bon, voilà, les toilettes, c'est une espèce de... Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Bon, ce qu'on offre aux étudiants... Paris 8 n'est pas encore un lieu très convivial. Hein. Ça manque de bancs pour s'asseoir, ça manque d'une maison de l'étudiant, ça manque d'un minimum de confort qui inciterait les étudiants à rester sur place sur le campus et peut-être à développer une forme de vie locale. C'est tout bête à dire, mais pour que les gens s'investissent, il faut qu'ils se sentent bien quand même, qu'ils se sentent chez eux. Hein. Et ça, bon, voilà. Alors l'autre chose
et
aussi...
Et encore, Paris 8 est bien mieux doté que d'une université comme Marne-la-Vallée ou Villetaneuse qui sont affreuses et totalement inhumaines. Quoi. Il n'y a même plus de cafétéria, il y a des distributeurs de boissons. Et c'est des universités qui n'est pas à visage humain, ça c'est horrible.
Oui, alors là, c'est vraiment un enseignement supérieur à coût minimum, en fait. Quoi. Et c'est vrai que dans le cadre... Alors ça fait un peu traditionnel de dire ça, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même un peu plus d'argent. Alors, on sait, par exemple, que la dépense par étudiant en France est beaucoup bien inférieure à ce qu'elle est dans les autres pays européens. Mais de manière générale, je crois que les gouvernants en France n'ont jamais eu beaucoup d'estime pour l'université. Ce qui a toujours importé, c'est plutôt le système des grandes écoles. Hein. Donc, d'où ces différentiels très forts, en fait, hein, si vous voulez, l'argent qui est dépensé par étudiant, et puis, mais aussi le salaire des enseignants, etc. Hein, c'est... Donc là, il y aurait un effort quand même à faire très, très... Et là, il est évident que le gouvernement en place, ce n'est pas du tout son... Non, ça, là, il faut que les réformes se fassent à coût zéro. Et non, il n'y aura jamais de réengagement. C'est plutôt le contraire, en fait, hein, ce qu'on observe. Hein. C'est un désengagement de l'État au niveau financier et avec une incitation très forte. Alors là, je n'en ai pas parlé, mais dans la LRU, on insiste beaucoup sur l'appel, par exemple, à des fondations, en fait. Vous voyez, on incite très fortement les académiques à trouver de l'argent ailleurs. Hein. Ça, c'est pareil pour la recherche, en fait. Hein. Faites-vous financer, donc, par... Donc oui, alors ça, déjà, c'est vrai quand ça... Bon, alors cela dit, c'était pas le plus désagréable à travers ces cahiers de doléances, hein, mais le plus désagréable, c'est quand ils ont souligné, si vous voulez, le manque d'organisation interne, de l'anomie et le fonctionnement parfois médiocre des services qu'on leur rend, quoi. C'est tout bête, mais je sais pas, par exemple, des secrétariats qui ne sont pas ouverts, quoi. Hein. Et bon, voilà, il faudrait quand même, voilà, là on. Ça renvoie aussi à notre incapacité à nous gérer nous-mêmes, en fait, hein, à avoir une. Et ça alimente aussi le discours, bien évidemment, des réformateurs, hein, qui disent : mais regardez, ça ne marche pas, il faut remettre tous ces gens-là au travail, on va mettre des primes d'intéressement, on va les faire courir, etc. etc. Donc là, effectivement, il y a balayé aussi devant notre porte, en fait. Hein, ça, Et moi, je me suis rendu compte, donc, quand on a fait ces cahiers de doléances, bon, des problèmes sont ressortis et en même temps, on n'avait pas la capacité d'y répondre, quoi. Hein. C'était un peu cruel de ce point de vue-là, quoi. Et là, bon, par exemple, récemment, je me suis fait interpeller par les étudiants. Ils me disent « Oui, alors qu'est-ce que ça a changé ?» Bon, voilà. Bon, on a réussi à faire un coup de peinture. Bon, c'était un petit peu plus propre. Bon, voilà. Mais je crois qu'il y aurait beaucoup... voilà. Donc oui, j'en reviens à les propositions, enfin, les états généraux. Donc on a essayé de prendre un peu de champ, essayer de réfléchir sur ce qu'on faisait, hein, effectivement. Hein. Et alors là, j'ai parlé beaucoup de ces fameux cahiers de doléances, mais il y a aussi tout l'aspect, comment dire, l'action de l'accueil des étudiants, par exemple, de premier cycle. Parce que ça, c'est un véritable problème à l'université. Hein. On sait qu'il y a des taux d'échec très importants au niveau du premier cycle. Et donc là, je crois qu'on pourrait quand même mieux faire, hein, dans l'accueil de ces étudiants. Ne serait-ce que, par exemple, dans la signalétique. C'est un peu bête de parler de choses aussi concrètes que ça, mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris 8, mais où c'est très difficile de se retrouver, hein, dans une université. Donc il y aurait des choses à faire là-dessus, mais il y aurait aussi surtout des choses à faire au niveau d'un encadrement pédagogique un peu plus rapproché, en fait, de ces étudiants. Hein, par exemple, d'un système de tutorat, par exemple. Vous voyez, je crois que là, on devrait peut-être être un petit peu plus inventif du côté des collègues, des enseignants. Alors, évidemment, ce n'est pas nécessairement leur tasse de thé, hein, mais je crois que là, si vous voulez, il y a des déficiences. Alors, l'autre phénomène aussi qui est apparu, bon, mais qu'on connaît aussi, bon, c'est la question des étudiants étrangers. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers dans cette université, 30%. Qu'est-ce qu'on en fait, au juste ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une pédagogie un peu différenciée ? Apparemment, non. Donc, je dis les choses comme ça de manière un peu brutale. Hein, mais
bon. Pour préciser, ces étudiants étrangers qui arrivent avec d'universités où les niveaux ne sont pas toujours comparables à ceux de l'université française et qui rencontrent un certain nombre de problèmes de maîtrise de la langue française, langue dans laquelle se fait l'enseignement à Paris 8.
Absolument.
Oui, c'est oui. Ça les problèmes que vous soulevez.
Absolument, oui, oui. Alors donc c'est ce qui fait qu'on voit par exemple de malheureux étudiants qui amènent leur magnétophone qui essaient de suivre fébrilement ce que vous dites, etc., qui ont des difficultés de compréhension et surtout de rédaction aussi, par exemple. Là, on a vraiment de très gros problèmes. Hein. On n'a pas de dispositif pédagogique adapté, il me semble, que ça reste très au cas par cas. Alors, c'est très visible, par exemple, au niveau du troisième cycle, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers au niveau du troisième cycle chez nous. Je pense d'ailleurs qu'ils doivent faire la majorité. Là, si vous voulez, on pourrait beaucoup mieux faire quand même. Mais ça demanderait effectivement une mobilisation quand même des enseignants, une prise en charge collective, vous voyez. Bon. Et c'est vrai que c'est très très loin de LRU, enfin de la réforme universitaire, apparemment. Mais bon, je voulais poser ces problèmes-là. Parce que effectivement, si on reçoit cette réforme en pleine figure, c'est qu'aussi, voilà, les académiques n'ont pas... su suffisamment prendre en charge aussi leur propre institution. Il y a une défaillance, il me semble, hein, à ce niveau-là. Hein. Ils n'ont pas su, je ne sais pas, par exemple, développer suffisamment des formes de participation avec les étudiants. Par exemple, sur la définition des programmes, là, moi, je vois, par exemple, il y a une idée qui surgit à Paris 8 qui est très intéressante en ce moment. En ce moment, on est en train de refaire les maquettes, là, dans le cadre du LMD. Et voilà, il y a une idée qui est apparue récemment. On se dit, mais pourquoi les étudiants ne diraient pas leurs mots sur les programmes d'enseignement, après tout ? Ils sont pas, vous voyez, sans démagogie, quoi. Franchement, hein, on pourrait quand même les intégrer à ce niveau-là, quoi. Hein, ce serait, et ça nous apprendrait beaucoup de choses parce qu'effectivement, on ne voit pas très bien la formation qu'on délivre à nos étudiants. Hein. C'est eux qui perçoivent les redondances, les répétitions, les manques, etc. Bon, il faut des choses à faire.
C'est peut-être aussi une idée à lancer de manière plus générale pour le mouvement, d'organiser des états généraux de l'université un peu partout. pour faire émerger ces doléances spécifiques ou plus générales sur le mouvement universitaire en France.
Alors évidemment, tout ça, ça pose des problèmes de temporalité. Là, on est pris dans l'urgence de l'action, etc. Et là, le temps de la réflexion, c'est pas le même que le temps de l'action, quoi. C'est bon, ça, c'est classique. Hein.
Je vois que le temps presse, je voulais comme dire juste un point, on n'a pas eu le temps de le développer, évidemment, c'est pour rebondir sur mardi. Une des parties de la réforme, c'est aussi d'autoriser les présidents à recruter des personnels non fonctionnaires, donc en CDI ou en statut précaire CDD. Et qu'évidemment, là, on retrouve la manifestation de mardi sur le démantèlement du service public, à la fois dans ses missions et dans ses personnels, quoi.
Moi, j'avais juste une dernière question qui est parce que, pour revenir sur ce que vous nous racontiez au début, sur l'organisation et la mobilisation des étudiants, c'est presque, on pourrait presque exiger dans un cursus universitaire, au moins pour les étudiants en sciences sociales, leur participation à un mouvement social de type grève universitaire. Parce que quelque part, on a l'impression, enfin moi j'ai ces souvenirs-là en tout cas, que c'est un endroit où on apprend beaucoup, tant de travailler collectivement, la prise de parole, qu'est-ce que c'est que les rapports au pouvoir et tout. Et alors, est-ce que vous seriez favorable à l'intégration d'une UV participation au mouvement social pour les étudiants en sociologie à Paris 8?
Votre question m'embarrasse beaucoup. Non, mais elle m'embarrasse beaucoup parce que la question de la reconnaissance, de la pratique, de l'action, etc., c'est aussi le discours des réformateurs, par exemple. Hein. Non, mais au sens où ils expliqueront que le vrai savoir, il n'est pas à l'université, il est dans les stages, il est dans les entreprises, quoi. Il est dans l'action, hein, dans l'action collective, quoi. Et donc, il est différent. Il existe. Vous voyez, c'est pour ça que je suis très embarrassé. Parce que déjà, moi, je... gauche, droite, voilà, bon investissement, mauvais investissement, je suis... Mais effectivement, ça existe, hein, des UV, comment dire, ça existe déjà, voilà, où ça donnerait tant de crédit, en fait, hein, d'avoir fait tel type d'action pratique. Bon, enfin, en tout cas, pour des apprentis sociologues, je crois que quand même, voilà, ce serait bon qu'ils se frottent à un mouvement social, enfin, qu'ils se rendent compte de ce que c'est concrètement. Mais je ne sais pas s'il faut convertir tout de suite ça en diplôme, hein. Je préférerais qu'il y ait des médiations, quand même, qu'il y ait un travail d'élaboration... qui est pas un rapport de stage, mais un rapport de, comment on pourrait appeler ça, de la lutte, je sais pas, enfin un rapport de mobilisation. Enfin, voilà.
Et Pierre, quand il se frottait à un mouvement social, c'était au propre comme au figuré.
Oui. Voilà, donc on recevait ce soir Charles Soulier qui est venu nous parler de la réforme des universités. On n'a évidemment pas eu le temps d'aborder tous les sujets qui touchent à l'université aujourd'hui et particulièrement aux mobilisations qui sont en train de se mettre en place. Mais merci beaucoup d'être venu.
Merci de m'avoir invité.
Et puis évidemment, on continuera à suivre ce mouvement. Rappelez que vous avez publié, alors je ne sais pas quand c'était en 2003, Universitas Calamitum, le livre noir des réformes universitaires dans le cadre d'un collectif qui s'appelait Abélard. Et alors là, vous aviez publié il y a 10 ans dans le cadre d'un autre collectif qui s'appelle Areser, enfin qui est une association, quelques diagnostics et remèdes urgents pour une université en péril. Et très manifestement, vous n'avez pas du tout été entendu, puisque les remèdes que vous proposiez il y a 10 ans sont restés lettres mortes.
Oui, tout à fait. Oui. On proposait notamment qu'il y ait un parlement des universités. Et bon, à la place, on voit plutôt une CPU qui se fait c'est la conférence des présidents d'université, qui se fait le vecteur des réformes contre lesquelles nous luttons aujourd'hui. Mais bon, voilà.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission congruente, parfois avec des choses bizarres. Ceci dit, ce soir, autour des boutons, autour des micros, on retrouvait Alex. On retrouvait aussi celui qui ne coûte pas très cher, mais lui, il est libre. C'était l'animateur buveur enseignant-chercheur, c'était Cédric. Il coûte pas très cher non plus, pourtant, il hisse chaque semaine cette émission en haut du palmarès off de Shanghai, c'était Guillaume. Mais voici que s'approche Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid. On vous abandonne donc dans les bras d'Écho du Capricorne. Ciao.